Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce 146e Comics Weekly. Cette semaine, deux gros événements chez DC et Marvel. La sortie de The Wake pour le premier, tandis que pour le second, ce sera la sortie du X-Men numéro 1. Bien sûr, nous parlerons aussi des autres sorties de la semaine. Beaucoup d'annuals chez DC, tandis que chez Marvel, quelques séries classiques. Nous aurons aussi une partie digitale ainsi qu'une partie indé avec de nouveaux petits produits qu'on va vous présenter. Et on finira comme chaque semaine avec le tour des TPB qui sont sortis cette semaine et ils sont très nombreux. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi cette semaine, Flo.
Coucou.
Et Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
On va commencer par le gros événement de la semaine, la série que l'on attendait depuis qu'elle a été sollicitée il y a 9 mois, à peu près, lors de la Comic-Con de l'année dernière à San Diego. C'est bien sûr The Wake, numéro 1 sur 10, Bruno.
Oui, donc Scott Snyder au scénario, Sean Murphy au dessin, The Wake, nouveau titre de chez Vertigo, une maxi-série en 10 numéros donc qui commence. Jolie couverture, on a découvert que ce serait une couverture en plus qui va s'assembler avec les 4 suivantes pour faire une sorte de fresque, donc ça c'est plutôt cool à chaque fois. L'histoire de The Wake, en fait, imaginez, c'est un mélange un peu entre Jurassic Park, The Thing... voilà, il y a un petit peu d'horreur aussi, des choses comme ça.
Et son sub.
Ah, Abyss, voilà, c'est ça. Alors, je dis Jurassic Park parce que, en fait, on a un groupe de scientifiques qui sont recrutés par le gouvernement pour évaluer, en fait, une crise qui a lieu en Antarctique, puisque il y a le gouvernement américain qui, a priori, a trouvé une sorte d'artefact ou quelque chose de très bizarre au fond de l'Antarctique. Et pour cela, en fait, ils ont contacté une chercheuse spécialisée en biologie marine, dont j'ai oublié le nom. Comment s'appelle-t-elle ?
Docteur Archer.
Le docteur Archer, voilà. Ils contactent également d'autres scientifiques. Il y en a certains qui se connaissent les uns les autres. Il y a le gars qui s'occupe de recruter tout le monde. Il a l'air de cacher pas mal de choses. Voilà. Ça commence très bizarrement, ce comics. Ça se passe dans le futur. On voit, il y a 3-4 pages très très étranges avec des dauphins radioguidés. Et après, on est dans le présent. Et la fin, ça se termine dans le passé. Donc, une narration assez intéressante. Une histoire qui est bien plantée dès le premier numéro. On voit tout de suite quelle est la menace. Un numéro efficace avec un Sean Murphy en forme. Moi, je suis pas trop fan de la colo, mais bon, c'est quand même le haut du panier au niveau qualité, au niveau du qualité comics, quoi. Donc un numéro qui m'a bien plu.
Flo.
Ouais, c'est très, enfin, c'est assez classique. L'histoire a l'air assez classique, mais la manière dont c'est raconté, surtout sur la partie principale dans le présent. Et assez classique, hein, un mec du gouvernement qui a un passif en plus avec le personnage principal qui est une océanographe et qui va recruter cette équipe pour aller voir un truc, on ne sait pas trop quoi, mais qui en tout cas semble rappeler des choses au personnage principal. Donc c'est simple dans le déroulement, mais le début qui se passe dans le futur et la fin qu'on va pas raconter, mais bon, Bruno, dans sa lancée, a déjà spoilé, donc on va encore recevoir des mails comme quoi on spoil tous les comics.
J'ai rien dit vraiment de.
Ces parties-là, etc., font que il y a pas mal d'épaisseur en plus qui est rajoutée, beaucoup de mystère et un côté très ambitieux quand même. Et on a définitivement envie d'en savoir plus, quoi. Pour ce qui est du dessin, moi j'adore Sean Murphy, donc je trouve ça très joli. C'est vrai que la colo est un poil terne. J'ai refeuilleté rapidement ce qu'il avait fait avec Scott Snyder sur American Vampire. C'était Dave Stewart qui colorisait à cette époque-là. C'est vrai que c'était un peu plus joli au niveau couleur. Là, c'est un petit peu terne, mais c'est quand même très très beau. Il dessine très bien les baleines.
Je vais troller un peu, mais ces femmes se ressemblent toutes, hein. Mais bon, c'est comme d'habitude, hein. On a l'habitude avec Sean Murphy.
Ouais, mais moi je m'en fous. J'adore quand même, je trouve ça super beau. Ah, et puis il y a un petit clin d'œil à Punk Rock Jesus, puisque ça se passe dans le même monde peut-être que Punk Rock Jesus, puisque le docteur Archer porte une est fan de musique et porte une casquette des Flak Jackets.
Ah, excellent. Voilà. J'avais pas fait gaffe. Ouais.
C'est rigolo.
Moi, ce que je trouve marrant, c'est que on regarde la cover. Bon, voilà, c'est une cover. À la rigueur, j'ai envie de dire, c'est juste le truc d'appel. Moi, ça, jamais ce qui m'a séduit, mais c'est vrai qu'une fois que l'on a lu ce comic et qu'on connaît la menace, tout est déjà sur la cover finalement.
Ah oui, oui, tout à fait. Mais moi, j'ai pas fait attention en fait.
Ben oui, voilà. Mais en fait, tant que tu le sais pas, tu peux pas t'en rendre compte. C'est ça qui est marrant.
Ah ouais.
Mais tout est sur la cover. Il y a aussi cette narration, vous l'avez expliqué déjà avec le passé, le présent et le futur. Mais on a aussi cette narration en chapitres. Mmh. On a quatre chapitres présents dans ce premier numéro. Et justement, avec chaque chapitre a son titre. Et je pense que ça peut aussi laisser des indices sur la suite. Et ça, c'est assez intéressant. Bah, c'est vrai que c'est classique, comme tu l'as dit, Flo. La partie présente notamment ce mec du gouvernement, cette rencontre entre les différents membres de cette future équipe. Mais c'est tellement bien mené que franchement, le classicisme gêne pas. Au contraire.
Bah, il nous a habitués à ça, Scott Snyder, hein, à faire des trucs finalement assez... tout un pan de son écriture qui est assez, assez classique, mais qui est toujours quand même très solide, quoi. C'est vrai que cette partie-là est très efficace. On a l'impression d'être dans une série télé américaine à gros
budget. Ouais, complètement. Mmh. Puis, enfin voilà, les dessins et surtout tout ce qui est décor de Sean Murphy est superbe.
Oh, ouais.
Les décors plongent carrément dans l'ambiance et
c'est ambitieux au niveau des dessins et tout.
Voilà, même si on se doute que ça risque d'être quelque chose assez en huis clos finalement, puisque en Antarctique, forcément. Voilà, les décors rendent le côté super majestueux, mais vraiment super majestueux. Quoi.
Quand ils arrivent,
c'est en Alaska,
quand ils
pardon, je dis en Antarctique, en Alaska.
Quand ils débarquent là-bas en hélicoptère, ouais, cette double page, quand ils débarquent en hélicoptère, c'est waouh! On est vraiment dans un film à gros budget. Quoi.
C'est
là où je disais, ça me fait penser à Jurassic Park, tu sais,
c'est vrai qu'il y a ce côté.
Les chercheurs qui débarquent comme ça, ils savent pas où ils vont, pourquoi.
Ça tourne mal très très vite.
Le fait en plus qu'ils se connaissent tous plus ou moins, ça rend aussi la situation super intéressante, puisque certains ne s'aiment pas, clairement, et deux personnes qui s'aiment pas dans un huis clos c'est toujours
au-delà de cette menace qui finalement nous a été teasée déjà depuis longtemps, quoi. On se doute bien qu'il y a un peu des strums bizarres au fond de l'eau, quoi. Mais ça fait depuis la Comic-Con l'année dernière qu'on sait à peu près ça, quoi. Au-delà de
moi,
ça, il y a
question,
quand même cette épaisseur au niveau des personnages, au niveau du passif du personnage principal. Il y a plein plein de choses à creuser, quoi. Bon,
en quelques pages, elle nous est tellement bien présentée qu'on ressent déjà de l'empathie pour elle. Finalement.
Ouais, c'est clair. Ouais. C'est très 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 attachante comme personnage.
Tu avais une question, Bruno?
Oui, je me demandais quand est-ce que Aquaman allait intervenir, quoi, pour régler un peu la situation.
C'est peut-être Aquaman qu'elle entend. Hein.
Peut-être est-ce un appel du pied de Scott Snyder à DC disant « moi je vais écrire Aquaman ».
Ouais, peut-être.
C'est possible. De toute façon, on avait déjà fait cette petite blagounette sur le fait que il y a quand même visuellement quelque chose qui se ressemble.
Ouais, c'est vrai.
En même temps, à partir du moment où on est au fond de l'eau, difficile de faire autrement.
Ce côté huis clos au fond de l'eau, qu'on verra certainement dans les prochains numéros, m'attire vraiment, quoi. Parce que ça, on peut créer des ambiances vachement bien. Et puis, Sean Murphy, pour ces décors-là, il est très bon aussi. Et pour les huis clos comme ça, il sait donner des ambiances comme ça assez, assez glauques. Et j'ai hâte de voir ça.
Ouais, j'ose espérer que ce sera du niveau du roman The Sphere de Michael Crichton, mais pas du niveau du film. Voilà. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'était un peu le même genre d'histoire avec sous l'eau et tout.
L'avantage du huis clos sous l'eau, c'est quand même que le danger est vraiment présent partout, quoi. Puisque
tu
peux pas t'échapper. C'est un peu comme dans l'espace, mais je sais pas. C'est peut-être le côté assez terrien parce que tout le monde peut imaginer être sous l'eau, alors que peu de monde peuvent s'imaginer être dans l'espace finalement parce que peu de monde l'ont vécu. Mais voilà, le moindre coup de feu, ça peut percer une coque et c'est la mort pour tout le monde. Et c'est du coup, on a vraiment ce sentiment de danger à tout moment.
Il y a quand même, avec cette menace, il y a aussi le côté, c'est sous l'eau, il y a ce huis clos sous l'eau, un peu comme dans l'espace, sauf que là, ça se passe sur Terre et que les profondeurs océaniques en Alaska, c'est très inconnu, c'est très mystérieux. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, même dans la vie, en dehors des comics, hein, dans la vie, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas des fonds marins. Et c'est vrai que c'est ça peut être passionnant comme thématique.
En tout cas, ce que l'on saura à la fin de ce premier épisode, c'est quand même que Scott Snyder est un gros fan de SeaQuest. Rappelez-vous, avec ce dauphin qui pouvait parler.
De flipper. Alors,
pardon, c'était facile, je sais. J'ai pas pu m'en empêcher. Bon, bah, je crois qu'on est tous d'accord. Hein. C'est un énorme bail cette semaine que ce premier numéro de The Wake.
Carrément, carrément.
Ouais.
Alors, je vais 3, tout de suite...
3 euros qu'on peut dépenser avec plaisir.
Je vais tout de suite répondre à une question qui va sûrement arriver dans les commentaires, comme on en a souvent quand on a des gros projets qui sortent comme ça. Est-ce que c'est lisible par tous? Mais j'ai envie de dire non. Là, par contre, il faut vraiment un très bon niveau d'anglais pour arriver à comprendre, notamment toutes ces scènes de dialogue dans le présent quand il parle avec les diverses organisations, etc. Parce que je pense qu'on peut être très vite largué si on a un niveau d'anglais assez juste, en fait, tout juste scolaire, quoi.
Oui, oh, oui, c'est sûr. Oui, ouais, oui. Non, mais c'est sûr que c'est un peu plus que Hulk Smash, quoi.
Ah bah oui, on est au-delà de ce niveau-là d'anglais, donc voilà. Bon, je préfère prévenir, comme ça les gens sont au courant et on n'aura pas la question dans les commentaires. Enfin, en tout cas, bon, posez-la si vous avez pas entendu, mais voilà, au moins vous le savez d'avance à réserver avec un niveau d'anglais assez soutenu. Bon, on va passer maintenant à la suite du programme chez DC, puisque petite semaine chez DC.
Et puis attendez, c'est quand même mon coup de cœur.
Ah oui.
La semaine.
Oui,
c'est
vrai.
Coup de cœur. C'est mon gros coup de cœur. Voilà.
Moi aussi, honnêtement, c'est un gros coup de cœur cette semaine. Je crois que c'est peut-être la meilleure chose que j'ai lue cette semaine, finalement.
Ouais, pareil.
Même si bon, il y a d'autres choses qui sont sympathiques, mais ouais, ça reste au-dessus du lot, quoi. Et non pas au-dessus de l'eau. Voilà, celle-ci était facile.
On nous rappelle que Scott Snyder nous rappelle quand même que ce mec-là sait faire pas mal de choses et il peut écrire de façon très différente. Il peut écrire de l'horreur, de l'action, il peut écrire Batman, il peut écrire American Vampire, il peut écrire plein de choses, ce mec.
Mais saura-t-il finir de façon correcte? Parce que souvent, c'est les fins de ces arcs qui posent le plus de soucis parmi les lecteurs.
C'est vrai. Okay. On verra. Parce que vu que ces fins d'arc sur les produits mainstream doivent toujours appeler des suites. Là, en même temps, on est quand même dans une histoire qui est censée être une histoire qui se terminera au bout de 10 épisodes.
C'est lui qui a décidé d'en faire 10 et pas 8 ou pas 12. Donc, s'il a décidé d'en faire 10, c'est qu'il a une bonne histoire bien prévue. En plus, c'est un truc auquel il a réfléchi depuis plusieurs années. C'est un projet qu'il a depuis longtemps. Donc,
il ne sera pas obligé de laisser une fin ouverte. Donc, il y a de fortes chances qu'il soit obligé de faire... Enfin, qu'il nous ponde une fin digne de ce nom. Allez, on passe à la suite du programme. Donc chez DC, comme je le disais, petite semaine chez DC, puisque c'est la cinquième semaine du mois. D'ailleurs, c'est aussi une petite semaine partout. Pas de nombreuses sorties comme on a pu voir ces dernières semaines. C'est la sortie du Earth 2 Annual numéro 1, premier d'une longue série d'annuals que l'on va traiter cette semaine. Enfin, longue. On va en traiter un autre sur les multiples qui sont sortis. Donc Earth 2 Annual numéro 1, scénarisé par James Robinson, avec des dessins de Cafu et de Julius Gopez, et ancré par Cafu et Cam Smith. C'est donc un épisode qui va se centrer uniquement sur, ou presque uniquement sur Atom Smasher. Donc ce personnage qui est capable de grandir et de péter la gueule à tout le monde en grandissant. Voilà, enfin, c'est le Giant Man de l'univers Earth 2, on va dire. On va revenir un petit peu sur son origine, comprendre un petit peu comment il a récupéré ses pouvoirs et qu'est-ce qu'il a fait depuis avec ses pouvoirs. On va découvrir aussi l'autre super-héros qui l'accompagnait, donc Steel. Et puis surtout, c'est sur la cover, on va découvrir le nouveau Batman de Earth 2. Et j'ai envie de dire, nous le mettre en cover, c'est un petit peu mensonger parce qu'il apparaît réellement dans 5-6 pages. Ça m'a un petit peu gêné. Alors oui, c'est ses grands débuts dans l'univers de Earth 2, mais est-ce besoin d'en faire la cover, sachant qu'il n'a pas un si grand rôle que ça? Surtout qu'on n'aura pas la réponse sur qui c'est. Il entretient le mystère.
Ah, ça peut être mystère.
Voilà, ça peut être sympathique. On se demande un petit peu qui c'est. Moi, j'aime bien son costume. Ce costume très proche de celui de Batwoman, finalement.
Ouais. Avec des tons rouges. J'ai vu la couverture et c'est vrai que c'est assez sympa. Un mix entre Batwoman, Batman Beyond, le Batman de Flashpoint, enfin tout ça quoi.
Donc voilà, une bonne petite histoire. On voit des personnages passer, hein. Bien sûr, on s'amuse avec l'univers Earth 2. Et puis, on a le démarrage de la suite de la série, finalement, ce sur quoi ça va embrayer avec le passage de certains New Gods. Voilà, j'en dirai pas plus. Un bon numéro, franchement, qui répond à pas mal de questions, qui a le mérite aussi de poser la suite des intrigues. Est-ce qu'on peut l'appréhender comme ça sans avoir lu la série? Je pense pas. C'est même une certitude. Il vaut mieux quand même avoir lu quelques épisodes. Moi, j'ai 2 épisodes de retard sur la série régulière, mais j'ai pu par contre lire l'annual sans aucun souci. Donc voilà, ça pose quelques bases pour la suite, et on va repartir dès le numéro 13 sur ce qui s'est passé à la fin et dont on reparle dans cet épisode, c'est-à-dire le fait que Steppenwolf s'est déclaré officiellement comme en vie et de retour et prêt à détruire le monde. Voilà, donc un bon épisode. Pour moi, c'est un bail si on aime Earth 2, mais ne commencez pas par ça, ce serait vraiment inutile. On va passer à un autre annual maintenant, on va rester dans l'univers batmanien, si on peut dire ça comme ça, avec la sortie du Red Hood and the Outlaws, annual numéro 1, et c'est Flo qui se charge de nous parler de ça.
Oui, donc c'est écrit par James Tynion IV, qui a repris les rênes de Red Hood and the Outlaws depuis le numéro 19. Donc il a fait 2 numéros normaux, et ce numéro est la suite directe. Oui, c'est ça, c'est la suite directe, il vaut mieux avoir lu ceux avant, puis il y en a que 2, donc vous privez pas. C'est dessiné par Al Barrionuevo, qu'on a vu dans plein de petites choses, que je connaissais pas, et qui dessine plutôt pas mal, qui dessine même mieux que Julius Gopez, je trouve, qui est sur les 2 précédents numéros.
Et puis du coup, qui était lui sur cet annual de Earth 2.
Bah voilà, j'imagine que c'est ça. Hein. Donc c'est très joli à regarder, c'est vraiment sympa. L'histoire, on se retrouve sur l'île des Outlaws, le QG des Outlaws, où Jason Todd, qui récemment avait perdu la mémoire, donc on lui a effacé ses mauvais souvenirs, on va dire. Et ben bah, il va être curieux et il va se dire mince, Starfire et les Arsenal disent que je suis un mec bien et tout, bah je vais vérifier parce que bon, j'ai quand même des doutes. Et évidemment, il se dit je vais vérifier la base de données des Outlaws, et il se rend compte qu'en fait c'est plutôt un vilain garçon et qu'il a tué pas mal de gens dans sa carrière, et donc il est pas très très content. Il est assez choqué. Et en parallèle de ça, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve Arsenal et Starfire qui, en fait, voient l'arrivée de Green Arrow. On avait vu à la fin du numéro précédent que Green Arrow avait découvert qu'il y avait une rançon sur l'équipe des Outlaws de 500 millions de dollars pour chaque tête. Donc c'est important. Et il est en fait allé sur l'île pour les rejoindre et les prévenir. Manque de peau, bon, il est un petit peu con, hein. Évidemment, c'était un piège, vu que bah, il s'est fait suivre et on va voir l'arrivée. Et donc l'île le QG des Outlaws se fait attaquer par un personnage féminin dont on nous a teasé le retour récemment. On en a parlé dans un Weekly News il y a peu de temps. Un personnage bien
oh là
connu.
Là. Je me demande bien qui ça peut donc être.
Voilà, bien connu pour ses relations dans l'univers précédent d'ici, pour ses relations avec Arsenal.
N'aurait-elle pas un chat ?
On voit pas de chat. On voit pas de chat là. Et ceux qui avaient envie de retrouver les mêmes relations que dans l'univers précédent seront déçus, vu que ce n'est pas le cas a priori. Par contre, elle semble avoir une relation avec Jason, enfin intime, je ne sais pas, mais en tout cas ils se connaissent. Enfin, lui, il s'en souvient pas vu qu'il a plus de mémoire, ce con. Et donc, bah, c'est un épisode bourré d'action, avec de la grosse baston entre ce personnage féminin dont je ne vous révélerai pas l'existence, Green Arrow, Starfire et Arsenal. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'action, il se passe beaucoup de choses, vu que c'est un numéro double, hein, c'est un annual. À la fin de ce numéro, on découvre un petit peu qui est derrière tout ça, et je ne vous révélerai pas qui c'est, évidemment, mais on y voit aussi l'apparition d'un autre personnage qui a été teasé par DC il y a peu de temps, à peu près au même moment que ce personnage féminin. Donc voilà, il se passe plein de choses, plein de nouveaux personnages qui apparaissent dans l'univers New 52. Ce personnage féminin, je l'ai trouvé plutôt pas mal, même si son design laisse un petit peu à désirer selon moi. Sa personnalité est vraiment cool. Je retrouve un petit peu ce caractère qu'elle a. Bah, moi, je la connais que par Young Justice, en fait. Donc, elle a un petit peu ce caractère-là. Voilà, c'est très plaisant à lire. C'est un petit peu au-dessus du précédent numéro, numéro 20, qui m'avait un petit peu déçu. Et je sens que James Tynion IV commence à lancer des intrigues pas mal sur le passé d'Arsenal, puisque évidemment on en profite dans ce numéro pour revenir sur le passé de team-up entre Arsenal et Green Arrow, justement, et un petit peu cette rancœur qu'il y a entre les deux, et c'est assez intéressant, il y a des bonnes intrigues lancées. Voilà, pour moi c'est un bon bail, alors que les deux précédents étaient des check-it, et je jaugeais toujours James Tynion IV. Là je sens qu'il est un petit peu lancé, et je vous conseille de commencer cette série si vous n'avez pas commencer Redwood auparavant. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé au numéro 19 et ma foi, c'est pas mal.
J'ai quand même l'impression que ce numéro est absolument à lire finalement.
Ah oui.
Pour ceux qui suivent la série. On peut pas le zapper comme certains annuels sont dispensables.
C'est très nettement à lire. Il se passe vraiment plein de choses et ça sera vraiment con de le louper parce que il y a des apparitions de nouveaux personnages dans l'univers des New 52, des intrigues qui se lancent, etc. Non, il faut pas le louper. C'est vraiment comme un numéro 21, si vous voulez. Voilà.
D'accord.
Loupez pas.
Donc gros bail pour ce Redwood and the Outlaws Annual.
Pas gros bail, mais en tout cas c'est un bon petit bail. C'est vraiment bien, quoi.
Ok.
J'étais surpris.
On va terminer notre partie d'essai avec Bruno qui va nous parler de Justice League of America numéro 4.
Oui, Geoff Johns au scénario. Au dessin, ce n'est plus David Finch, c'est Brett Booth pour ce numéro. Dans ce numéro, on retrouve Catwoman qui avait essayé d'intégrer la société secrète des super-vilains. Elle avait réussi à la fin du numéro 3, et donc là on la voit un petit peu essayer de découvrir ce qui se trame dans cette maison un peu secrète où soi-disant il y aurait tous les super vilains qui manigancent contre la JLA et contre la Justice League. En parallèle, on a toujours Argus qui cherche à en apprendre un peu plus sur cette société. Ils viennent de découvrir en fait le symbole, ce symbole qu'on avait déjà vu à la fin de Justice League, cette tête un petit peu qui rappelle la boîte de Pandore. Ça c'était dans un numéro, je crois, de Firestorm, que en fait les personnages trouvent cette pièce.
Oh mon Dieu, comment devoir aller chercher des séries que personne ne lit.
Ouais. C'est ça. Et là on a l'apparition du docteur Light qui est gentil, qui vient pour les aider puisqu'il est spécialisé dans tout ce qui est ondes lumineuses, et a priori cette pièce sert justement de moyen de communication en jouant sur les ondes. Donc voilà, donc un personnage intéressant et important de l'univers DC qui revient dans les New 52.
Juste une petite question, quel docteur Light c'est ? Est-ce que c'est le docteur Light masculin ou est-ce que c'est sa fille ?
C'est le masculin.
D'accord.
Voilà. Il se passe pas mal de choses avec notre sacrée Catwoman qui est quand même très très curieuse. Elle arrive à communiquer avec l'équipe pour indiquer où elle est, mais après tout s'accélère. Des méchants qui arrivent et qui lui posent des questions. Beaucoup d'actions et une fin assez folle.
Ouais.
Voilà. Est-ce que c'est cette fin qui va lancer Trinity War peut-être ? Voilà. Un très bon numéro, enfin un très bon, une très bonne Justice League of America. J'ai beaucoup aimé ce numéro. Je sais pas ce que t'en as pensé, Flo.
Ah oui, c'est très très bon. Ah oui, la fin c'est très très choquant et très marquant. Hein. Je sais pas comment.
On a envie de voir la suite.
Tirer,
hein.
Mais ouf, c'est voilà, ça met les choses à plat tout de suite. Ouais, très bien, un très bon numéro, beaucoup d'action, du bon Geoff Johns. Plein de personnages, des intrigues à n'en plus finir. Moi, cette Secret Society of Villains, ça me plaît.
Ouais.
Cette Catwoman accrochée à une chaise avec des
T'aimes bien aussi ça.
Ça me plaît. Et les dessins de Brett Booth sont pas mal. Bon, c'est toujours très très image hein, quand il y a du boobs.
Alors moi j'aime beaucoup. Hein. Je dirais même que c'est presque mieux que ce qu'avait fait David Finch sur les premiers numéros.
David Finch, c'est vrai que c'était très dark. Je trouvais ouais. Ça très sombre. Brett Booth, c'est pas la superstar David Finch, mais c'est quand même un mec solide, mais qui a un style quand même plus image, plus.
Ça va bien avec l'action.
Avec un peu plus de crayonné, par contre, voilà, il y a beaucoup de crayonné à la Image, quoi, un peu du Jim Lee, voilà. Mais c'est très dynamique. L'avantage, c'est vrai que c'est très dynamique pour les scènes d'action et c'est, ça va très bien. Il est là pour deux numéros, donc, avant que Doug Mankey reprenne pour Trinity War.
Voilà. À noter un backup de Matt Kint, avec des dessins de Andrés Guinaldo, un très bon backup.
Excellent backup.
Explique les origines du Martian Manhunter et de, bah, de, pour, si oui ou non il est le dernier de son espèce et qu'est-ce qui s'est passé sur Mars. Très beau, très intéressant. J'ai beaucoup aimé. C'était bien meilleur que le précédent.
Je suis désolé, j'ai du doute vraiment sur ce backup parce que tout le monde dit que c'est vachement bien, mais moi, après les avoir lus, les deux, trois premiers, putain, je trouve ça nul.
Eh ben, celui-ci, c'est le troisième, donc celui-ci est vraiment très bien parce qu'il nous raconte, voilà, un petit peu ce qui s'est passé sur Mars. Et aussi cette explication, alors je sais pas si ça avait été expliqué avant, ou je sais pas comment ça avait été expliqué, mais cette explication de sa faiblesse au feu. Voilà, moi j'ai trouvé ça très très intéressant. Et comme d'habitude avec Matt Kint, il y a beaucoup de psychologie et c'est voilà, il va vraiment dans la psyché du personnage. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant cette explication.
D'accord.
Donc ouais, il est très bon ce backup, je trouve. Très bon.
Un épisode très solide avec un bon backup, donc un bail pour moi.
Ouais, ça aurait pu être mon coup de cœur s'il n'y avait pas eu cette grosse sortie Case Awake, mais un gros bail.
On va maintenant passer à notre partie digitale. On va rester encore sur du DC puisque c'est la sortie du cinquième numéro de Adventures of Superman, cette sortie digital first, dont le premier numéro papier est disponible depuis cette semaine. Bah, Flo, tu vas nous parler de ce cinquième numéro.
Oui, donc c'est du Digital First, c'est écrit par Joshua L. Fialkoff, qui est décidément fait vraiment plein de trucs, le chouchou de Bruno, et c'est dessiné par Joel Jones, qu'on peut retrouver actuellement sur la série Helheim de Cullen Bunn chez Oni Press. Donc c'est très joli, Joel Jones, c'est très très joli, et on va suivre, alors c'est une petite histoire sans trop d'importance, où en gros c'est un défi entre Lois Lane et Clark Kent pour avoir un scoop dans la journée. Donc ils se séparent et ils partent à Metropolis pour avoir un scoop pour faire la une du tirage du soir. Et pendant que Lois Lane se barre, bah, évidemment Clark Kent va devoir passer sa journée à sauver la veuve et l'orphelin au lieu de trouver son scoop. Et il va en gros passer par une galerie de vilains assez impressionnante, en passant de Toyman à il va croiser aussi Kamandi, qui est pas un vilain, mais il va croiser Kamandi, il va croiser qui d'autre, Lex Luthor, le temps de
des dinosaures,
des animaux, hein,
une journée normale à Metropolis,
voilà,
quoi.
La journée normale pour Superman qui doit tout réparer à Metropolis. Et c'est plein de gags, c'est assez drôle, c'est fun, ça se lit en 2 minutes. C'est du bon petit digital. Tu l'as lu également, vous l'avez tous lu en fait.
Ouais.
On l'a tous lu, ouais.
Bah vas-y Bruno.
Ah bah c'est vraiment très sympa, j'avais le sourire aux lèvres pendant toute la lecture, des panels assez assez sympathiques, la scène contre le Toyman m'a fait mourir de rire. Donc beaucoup de clins d'œil. On a tous noté le bâtiment Schuster. Donc non, il y a plein de clins d'œil, c'est vraiment une lecture agréable, j'ai beaucoup aimé, ça vaut c'est $1.
Ouais, c'est clair, voilà, le prix est vraiment pas cher. 99 cents, c'est vraiment rien. Et on passe à un bon petit moment de lecture. Ça met le sourire. C'est une histoire classique de Superman entre Lois Lane et Clark Kent qui font un pari pour savoir qui va écrire le meilleur article. Le truc bateau, mais sur une histoire bateau, il nous le traite de façon très comique et ça donne, voilà, ça donne le sourire aux lèvres. C'est une bonne petite lecture, ouais. Qui vaut pas cher. Et si franchement,
c'est sa bitch hein, quand même.
Mais toujours,
Lois, hein.
Toujours. Je veux dire, c'est Lois Lane. Voilà, on est dans du Superman vraiment archétypal, mais qui fait rire et qui donne le sourire.
Avec le slip.
Oui.
Oui, c'est pas du tout.
Avec le slip rouge.
Une petite histoire comme ça.
Voilà, bon, à noter la scène du futur et son retour. Le retour du futur qui est très drôle.
Voilà. Vous saurez tout sur comment Superman se rase.
Voilà. Bon, ça avait déjà été beaucoup de fois montré, cette scène. Mais voilà, c'est marrant. Il y a vraiment tous les ingrédients qui font qu'on aime Superman dans ce truc-là, avec un tout petit peu d'humour, un tout petit peu, même beaucoup d'humour. Et c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est peut-être une des meilleures histoires de Superman que j'ai lues ces derniers temps. Donc bon, c'est quand même bizarre. Donc pour moi, c'est un bail, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, voilà, surtout à $1, ça vaut que dalle.
Oui, complètement.
Ouais, un bail.
Un bail, ouais.
On va terminer notre partie digitale avec un autre produit digital. Je ne vous avais pas parlé du premier numéro de Oh Yeah Comics, cette série de Art Balthazar et Franco, qui sont deux de mes chouchous aussi du côté humour. C'est publié conjointement avec Thrillbent, mais ce n'est pas disponible sur le site de Thrillbent puisque ce n'est pas gratuit, c'est disponible sur Comixology. C'est peut-être le gros défaut de cette série, c'est que ça vaut $1,99. C'est un petit peu cher. Ce numéro 2 est quand même nettement au-dessus du premier. Donc on suit toujours les aventures de Action Cat et Adventure Bug, les deux compères qui vivent des folles aventures, qui travaillent dans un comic shop qui s'appelle donc Oh Yeah Comics. Comic shop dans lequel un comic
travaille
shop qui existe,
Franco, voilà. Et Balthazar, je crois.
Voilà, c'est ça, le comic shop qui existe et dans lequel ils travaillent pour de bon. Et donc dans ce numéro-là, eh bien le gérant du comic shop a décidé d'habiller un de ses vendeurs, qui est donc Action Cat, en Action Cat parce qu'il trouve qu'il y a une petite ressemblance, et d'en faire sa mascotte pour le magasin. Donc on a vraiment tout ce clin d'œil avec Superman, etc. Puisque le déguisement est aussi ridicule, hein, une simple paire de lunettes suffit. Et en fait, en faisant la mascotte et en l'envoyant sur une application qui s'appelle Apps, tout simplement, eh bien, il va tomber à la merci du grand méchant de l'histoire qui s'appelle donc Cellphone Guy. Qui a décidé d'unir toutes les...
Est-ce qu'il ressemble à un iPhone ?
Qui ressemble à un téléphone.
D'accord.
Téléphone basique. Un téléphone avec des yeux, des mains, des pieds, voilà. Et il a décidé tout simplement d'unir toutes les autres mascottes en les hypnotisant et de débrancher et de faire tomber la tour de téléphone afin de prendre le contrôle du monde. Oui, bah oui, c'est comme ça qu'on prend le contrôle du monde, et bien on coupe les communications, tout simplement. Franchement, c'est drôle, c'est vraiment très fun, on se marre aussi à la lecture, vraiment, parce que les gags, la façon, la résolution, tout ça, c'est vraiment très drôle. Maintenant, 1,99€ pour ça, c'est peut-être un peu cher. Comme je dis, le numéro 2 est nettement plus sympa que le premier. Le premier, c'était vraiment une suite de petites histoires de quelques pages. Là, on a vraiment une grosse histoire qui prend quasiment tout le numéro. Et c'est quand même nettement mieux, surtout le combat contre ce fameux Cellphone Guy qui utilise toutes les autres applications pour se débarrasser d'Action Cat, Adventure Bug, et notamment des versions légèrement différentes de Angry Birds qui leur balance dessus. Enfin voilà, des choses complètement folles qui font marrer. Maintenant, 1,99€, c'est vraiment un peu cher. C'est vraiment le seul défaut, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 1,99€ pour ça? Si on est fan de Art Balthazar et Franco, pardon, oui. Sinon, réservé, disons, pour un public assez jeune, quand même. Voilà, donc j'ai envie de dire qu'un check-it seulement. On va passer à la partie indé. On va commencer par toi, Bruno, qui nous parle d'une nouvelle série, pardon, qui s'appelle Asylum.
Oui, alors c'est John Carpenter's Asylum, puisque l'idée de ce titre, ça vient de John Carpenter, le roi du cinéma d'horreur des années 80-90. Au niveau du scénario, c'est écrit par Bruce Jones, et les dessins, c'est Leonardo Manco.
Putain, Bruce Jones est de retour.
Hein?
Bruce Jones est de retour.
Voilà.
Ça faisait longtemps
Exactement.
Qu'on n'avait pas vu.
Alors
ça.
C'est chez un éditeur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Storm King Comics. Et c'est pas mal. Le méchant de cette histoire, c'est très simple, c'est le diable. Voilà. Donc c'est simple.
Une recette
le
qui
diable...
marche, mais éprouvée voilà, depuis des millénaires, mais finalement, ça fait toujours son petit effet. Hein.
Ça marche. Le diable qui possède quelqu'un et qui commence à faire des méfaits dans une ville américaine, à une sorte de psycho-killer. Voilà. Et donc pour pouvoir contrer le diable, qu'est-ce qu'on a ? Ben on a un prêtre, un ancien prêtre qui a été excommunié. Dans la première scène, on le voit le prêtre en train de coucher avec une nana un peu à poil. Donc ça c'est sympa, c'est bien dessiné. c'est une sorte de John Constantine.
J'adore l'enchaînement. On le voit coucher avec une nana à moitié à poil. C'est bien dessiné.
Ouais, non, c'est vrai, c'est pas mal.
L'enchaînement est assez étrange, Bruno. Tu m'excuses.
Voilà, mais c'est un ancien prêtre, donc c'est ça qui est marrant, quoi. Et donc voilà. Et c'est le père Daniel, ancien père Daniel. Et en fait, c'est une sorte de John Constantine qui essaye de se racheter et qui sait en fait que le diable est sur terre. Il va voir un autre prêtre, le prêtre Daniel, qui est un peu son mentor, qui l'envoie en mission justement pour essayer de d'arrêter ce gars-là. En parallèle, on suit une équipe de flics qui enquête sur ce serial killer qui fait un peu des crimes atroces dans la ville. C'est une écriture très très polar, très série télé, très 80s aussi, assez maligne. Enfin, je veux dire le flic par exemple, il a une vie de famille tranquille. On dirait qu'il a l'air d'être content. Il a son fils, sa femme et tout. Et en fait, après, on voit qu'il a quand même une liaison un petit peu bizarre avec sa collègue de travail. Enfin, c'est assez mature. Les scènes d'action sont plutôt bien faites, c'est vraiment très solide au niveau des dessins. Franchement, une très bonne surprise ce titre que je conseille à tous les fans de John Carpenter. Et voilà, il y a un petit côté vampire, comme le film Vampire, avec un personnage héros qui ressemble beaucoup au personnage qui était joué par James Woods. Et donc voilà, franchement, je m'attendais pas à ça et une bonne petite surprise. Pour moi, c'est un gros check-it plus tendance buy.
C'est marrant, hein. Il y a énormément de petits éditeurs en ce moment qui sortent plein de produits, on en découvre chaque semaine. Des gens qui se lancent dans le comics, alors soi-disant que le comics va mal, mais finalement. Enfin, moi, je suis assez surpris, quoi, de voir à chaque fois des nouveaux éditeurs débarquer sur le marché. Et surtout s'ils ont des produits comme ça, c'est encore plus encourageant pour eux.
Bah ouais, franchement, ouais, tentez, tentez, voir le premier numéro, au moins ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal.
On va passer à une autre sortie indé qui, là, vous a énormément plu à tous les deux, Flo et toi, Bruno, puisque vous l'avez lu tous les deux. Flo va se charger de le résumer. C'est la sortie de Next Testament.
Oui, Clive Barker's Next Testament. C'est écrit par Clive Barker et Mark Miller, et pas Millar, attention. Et c'est dessiné par Aemi Jang, artiste coréen, qui a déjà dessiné du Hellraiser d'ailleurs. Donc, je parle d'Hellraiser puisque c'est coécrit par Clive Barker, donc
C'est marrant,
célèbre.
après avoir parlé de John Carpenter, parler de Clive Barker.
Je me faisais
Voilà,
la même réflexion.
encore un autre ponte de l'horreur, célèbre romancier et réalisateur d'Hellraiser, entre autres.
Ou Cabal.
On y... Pardon?
Je dis ou Cabal aussi.
Ah oui,
Ouais,
oui.
le film qu'on espérait tous trouver en DVD, mais qui n'est pas disponible nulle part.
Ouais.
Et on suit dans ce comic book un genre de riche millionnaire un petit peu vieillissant qui a l'air d'être quelqu'un d'un petit peu enthousiaste sur tout ce qui est mythologique, histoire, etc. Et il est en expédition avec sa femme dans le désert. On ne sait pas où d'ailleurs. Location unknown, c'est marqué sur la page. C'est peut-être au Sahara ou on ne sait pas trop. Et il va tomber sur une genre de pyramide très chelou, avec des genres de diables sculptés en bas-relief dessus. Et il va révéler quelque chose d'assez énorme qui nous concerne tous, qui semble être à l'origine de l'humanité même. Et en parallèle, on suit son fils et sa fiancée, son fils a un genre de malaise et il dit, tiens, c'est bizarre. Je suis sûr que ça vient, c'est mon père, il est pas là, et je suis sûr que c'est mon père a des soucis. Et il va aller dans sa genre de grande maison de son père, de son riche père, pour essayer d'enquêter sur ce qui se passe, et elle va découvrir que visiblement son père faisait des recherches un petit peu occultes. Et voilà, je vais pas en révéler beaucoup plus parce que sinon je vous raconterai tout ce qui se passe.
Ouais.
C'est très joliment dessiné, c'est particulier, cet artiste coréen, c'est entre le... Ouais, c'est particulier, c'est pas du manga, hein, mais
Ah non, non, oui, quand même pas.
c'est pas du tout du manga, mais c'est pas non plus tout à fait du comics. Mais le trait est beau, quand même.
Une
Je sais
belle
pas de quoi...
utilisation de la
Ouais.
colorisation du personnage, ce fameux, justement, personnage étrange. Et assez chouette, moi je trouve ça.
Ouais, tout à
C'est
fait,
le
ouais.
personnage qu'on voit sur la couverture. Et
Moi, ça m'a
c'est.
fait penser à Voltoum.
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 Ouais, il est mieux que Voltoum quand même.
Mais c'est
à noter que en fait ce vieux riche en fait, c'est dans un rêve en fait, il a eu une vision et dans vision en fait,
voilà.
C'était de devoir courir dans le désert les yeux fermés et qu'un jour il allait trébucher et qu'il allait tomber sur quelque chose de magique.
Donc ce qu'on l'a fait ça tous les jours et à un moment il semble que ça fonctionne.
Et ce qui est important de noter aussi que c'est un personnage qui est anti-religion mais qui s'intéresse à tout ce qui est comme tu disais les choses un peu occultes et il a amené peut-être à revoir son idée sur la religion.
Ah oui.
Et un titre qui commence pour moi vraiment très fort avec des images chocs comme justement la découverte de cette pyramide et la fin qui m'a vraiment captivé. Et j'ai vraiment envie de lire la suite. C'est une maxi série, ce sera en 12 numéros chez Boom, un studio qui est en plein boom hein, puisque ça marche vraiment très très bien, très bonne série chez Boom. Et ouais, pour moi c'est vraiment un gros bail et j'ai adoré. C'est je crois que c'est mon coup de cœur de la semaine même, devant The Wake. Tu vois, c'est étonnant, mais j'étais surpris par ce titre qui à la base s'appelait New Genesis, je crois, et qui a dû changer de nom parce que DC était pas content.
Serait-il en train de nous préparer quelque chose?
Je sais pas.
Ouais. Boom hein, qui détient les droits pour Clive Barker puisque c'est eux aussi qui se chargent d'adaptation d'Hellraiser.
Hellraiser, ouais. Et c'est bien, il tient un bon filon parce que là, l'auteur fait vraiment du bon boulot, c'est mystérieux et peut-être que ce sera en plus un sujet assez, enfin c'est quand même, ça touche sur la religion, donc c'est intéressant de voir quelqu'un parler de ça et, dans le comics. Et on va voir.
La partie avec son fils est quand même nettement plus classique et nettement plus bateau.
Oui, c'est classique.
Voilà, c'est nettement plus bateau que la partie avec le père. Mais c'est une très bonne surprise. Ouais. C'est une très bonne surprise. J'ai lu ça sur tes bons conseils pour histoire qu'on soit deux à l'avoir lu ce soir. Et c'est vraiment une très bonne surprise.
Donc gros bail pour vous deux.
Bah ouais. Très bon bail pour moi. Ouais.
On va terminer notre partie indé avec un produit Image. C'est la sortie du 4e numéro de Five Weapons, Bruno.
Ouais, je reviens sur ce titre parce que je l'ai découvert en fait il y a pas très longtemps et je suis tombé amoureux. C'est excellent. C'est une mini-série. Je crois que Nono nous avait parlé du premier numéro.
Oui.
C'est écrit, dessiné par J.B. Robinson qu'on connaît surtout pour Bomb Queen, qui est plutôt un comics un peu, on va dire, olé olé, avec beaucoup d'action. Et là, c'est un autre style, c'est un peu plus tout public, même si finalement ça touche parfois des sujets un petit peu bizarres. Cette histoire, en fait, d'un jeune qui arrive dans une école où on apprend à former les assassins. Comme dans Harry Potter, ils doivent choisir une maison qui se spécialise dans tel ou tel type d'assassinat, les armes à feu, les objets contendants, les flingues, les arcs, enfin les trucs comme ça. Et le personnage qui arrive, en fait, c'est le fils d'un des plus grands assassins du monde. Et lui, il veut utiliser aucune arme. Et par contre, il arrive à prendre le contrôle un peu de l'école juste par son intelligence et à contrecarrer les plans de tous les élèves qui essayent de lui mettre la misère parce que c'est un peu le fils du grand assassin du monde, quoi. Et en parallèle, en fait, on a la famille justement de ce grand assassin où il y a quelqu'un qui essaye de les exterminer. Et là, il y a un gros mystère aussi par rapport à ça, par rapport à la directrice de l'école. C'est vraiment très bien écrit, très drôle, très malin, très très malin, puisque en fait chaque numéro se termine avec une confrontation entre le héros et un des élèves qui est spécialisé dans tel ou tel type d'assassinat. Et à chaque fois, dans le début du numéro suivant, on voit comment il arrive à contrecarrer l'élève par son intelligence. Et c'est vraiment très très cool. Ce sera en 5 parties. Là, on voit vraiment bien. On s'attend à une bonne conclusion, très bonne surprise. C'est très sympa au niveau des dessins, c'est très cartoony, mais ça permet un peu de contrebalancer parfois les scènes un petit peu violentes. Et franchement, super cool. Je conseille cette mini-série. J'espère que la fin sera bien. Pour moi, c'est un bail, très bonne surprise.
D'accord. Bon, on va terminer notre partie de review avec, bien sûr, Marvel, dont on n'a pas encore parlé. Marvel qui sort un gros titre cette semaine, puisque c'est le X-Men numéro 1 de Brian Wood et Olivier Coipel. Titre qui était très attendu, qui a bénéficié d'une promotion pas forcément désirée au départ, puisqu'on nous a teasé que ce serait une équipe presque entièrement féminine hein, dans les rôles principaux. Et du coup, la communication s'est faite sur ce principe-là, une équipe de femmes. Alors que Brian Wood disait non, c'est pas une équipe de femmes, c'est une équipe de X-Men.
Le problème, c'était les 2 mois de retard aussi. Hein.
On va revenir là-dessus justement après. On va parler un petit peu du scénario. Jubilee est de retour dans un titre. Elle revient à l'école Xavier accompagnée d'un bébé. Voilà. Et on n'en sait pas vraiment plus. Comment a-t-elle découvert ce bébé? Eh bien, on va l'apprendre au long de l'histoire. Jubilee qui se sent poursuivie par quelqu'un et qui l'est effectivement poursuivie par quelqu'un. Elle demande à ses compagnons X-Men de venir à sa rescousse puisqu'elle ne se sent pas en sécurité. Ce mec qui la poursuit, finalement, on va comprendre qui c'est très rapidement. Il s'agit de John Sublime, le retour de Sublime dans une série X. Et franchement, c'est plutôt pas mal, je trouve, comme premier numéro. On a envie d'en savoir plus très rapidement. On a envie de comprendre ce qui s'est passé, puisqu'on nous parle d'une espèce de lutte fratricide, entre John Sublime et justement sa sœur jumelle. Pourquoi, comment, ça je vous laisse découvrir, je vais pas trop en révéler puisque finalement l'histoire est assez intéressante. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Bruno, Flo.
Bruno, je t'en prie.
Très sympa. Moi j'étais un petit peu perdu parce que justement je connais un petit peu moins l'univers Marvel et Jubilee, je crois que je l'avais vu, il me semblait qu'elle était encore vampire moi, donc j'ai trouvé que l'histoire était vraiment sympa, des gros clins d'œil à New X-Men de Morrison. Donc avec justement le retour de Sublime et puis d'autres de ses concepts, c'est très beau ce que fait Quapel. Franchement, c'est j'adore sa Rogue. Enfin, elle est sublime, hyper sexy, très très sympa. C'est beaucoup d'action, c'est blockbuster, c'est aussi malin parce que finalement le scénario est pas si simple. Une bonne surprise. Il s'est fait attendre, mais ça méritait d'attendre parce que vraiment c'est un bon titre, très bon titre.
Ouais, effectivement, ça, il rappelle, il utilise des éléments de continuité des X-Men, hein, c'est un peu la mode en ce moment. Effectivement, John Sublime, puis d'autres personnages dont on révélera pas le nom. L'histoire est prenante, la menace est bien présentée, elle a l'air plutôt importante et plutôt dangereuse, j'ai envie de dire. Je suis amoureux d'Olivier Coipel, quoi. Déjà, vous regardez cette couverture. Enfin déjà, cette couverture, c'est à peu près la plus belle cover que j'ai vue depuis des mois. Elle est sublime. Sa Rogue est superbe.
Sa Psylocke est coquine aussi.
Sa Psylocke aussi, même si on la voit peu dans le comics, sa Psylocke est pas mal du tout. Mais Psylocke, je l'aimais déjà quand elle était dessinée par Jérôme Peña auparavant. Non, c'est très très beau, avec toujours une très belle inventivité dans le découpage des cases, des très belles doubles pages qui sont toujours intelligentes, intelligemment dessinées. Bruno m'avait dit hors antenne qu'il y avait effectivement quelques cases un petit peu en dessous au niveau dessin, mais bon, oui, c'est il y a peut-être quelques cases
dessus,
un peu rushées,
c'est un peu dommage,
mais on
c'est
voilà,
un peu dommage, mais
on passe
bon,
dessus parce que c'est entre deux quoi. Et cette histoire avec Jubilee et ce gamin là qu'elle traîne est intéressante. J'ai été emporté quoi. J'étais vraiment emporté par l'intrigue.
Moi, ce que je trouve marrant, c'est cette communication autour du fait d'une équipe féminine. Enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti à la lecture, mais moi, j'ai pas eu du tout sentiment de lire une équipe de femmes, justement. J'ai eu l'impression de lire une aventure des X-Men.
Ah bah oui, enfin, tout à fait. Oui, c'est une aventure des X-Men. Il y a des nanas dans les X-Men, des nanas d'ailleurs de grande importance, aussi importantes que les mecs. Donc oui, c'est une aventure des X-Men, sauf que...
Moi j'ai quand même trouvé que c'était quand même mis en avant puisque c'est vraiment une équipe de filles et on voit pas un seul mec X-Men quoi.
Moi franchement ça m'a
on a l'impression que c'est plus elles viennent aider leurs copines entre copines quoi. Donc
mais moi je l'ai même pas ressenti comme ça quoi, tu vois. Enfin
ouais, aussi moi j'ai senti
c'est
comme ça.
Vraiment en lisant le petit courrier, enfin la page de courrier lecteur si on peut dire ça comme ça, en tout cas la page de post-comique qui en parle, où on a un petit discours de Brian Wood, etc., qui revenait sur cette communication. Et à la lecture de l'épisode, j'avais complètement oublié que c'était, soi-disant, l'équipe féminine, quoi. J'ai vraiment lu une aventure des X-Men, point barre.
Moi, j'ai pas... Après, moi, ça me gêne pas. Moi, j'aime bien les équipes de filles. J'aime bien Fearless Defenders. Ouais. Uncanny X-Force, c'est un petit peu moins bon en ce moment, mais c'est quand même assez sympa, et pourquoi pas, quoi.
Ouais,
ils ont de bons personnages féminins, donc ça...
Ce que je veux dire, c'est que c'est cette communication faite dessus est vraiment peut-être un peu dommageable, finalement. Elle risque de porter plus préjudice à la série qu'attirer des lecteurs, j'ai l'impression.
De toute façon, dans 3 numéros, il y aura Wolverine, et puis voilà, quoi.
si les ventes chutent, ouais, on met Wolverine.
Mais non, franchement, un numéro de très bonne facture, quoi. Un premier épisode super intéressant. J'y allais, je vais pas dire reculons, mais j'étais quand même assez, on va dire assez suspicieux du truc parce que c'était quand même vendu à grand renfort de com, etc. Et j'avais un peu peur. Et finalement, très bon démarrage pour ce premier numéro des X-Men.
Ouais, et le trio Olivier Coipel, Marc Morales et Laura Martin, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment
trop bien. Clairement. Clairement, c'est vraiment, vraiment un très bon premier épisode. Vous pouvez vous jeter dans la fosse au lion, il n'y a pas de souci, vous pouvez le prendre sans aucun bagage, quasiment.
Ouais. Moi, j'y connais vraiment pas grand-chose en X-Men, je connais pas de Jubilé. J'ai lu les New X-Men, mais bon, il a fallu que je me replonge un peu dedans pour me reprendre John Sublime, tout ça, machin, parce que...
Ouais, c'est ça, sinon allez sur la page Wikipédia voilà. De John Sublime.
J'ai envie de dire,
parce que le concept est assez barré, quand même, de Sublime. Donc,
ah bah, c'est du Morrison, hein. C'est...
donc, c'est vrai que si vous savez pas qui est Sublime et d'où vient son pouvoir,
surtout
c'est intéressant d'aller voir sur le net ce qui s'est passé avec lui avant.
Tu sais, sur le moment, moi, je m'en rappelais plus, et ça m'a pas dérangé, hein. Point. Enfin, je veux dire, voilà... Surtout qu'il est réapparu assez récemment dans des épisodes de X-Men, il y a quoi, un an ou deux. Donc pour ceux qui lisent les X-Men...
Ouais, voilà, c'est ça.
Non, c'était peut-être pas un an ou deux, c'était peut-être un peu plus longtemps. Je crois que c'était à l'époque de Matt Fraction.
On retrouve des personnages qui sont apparus pendant le run de... Attends, c'est Mike Carey aussi dans X-Men Legacy.
Legacy.
Ouais. Voilà. Donc voilà, un très bon premier épisode et franchement, un gros bail cette semaine chez Marvel. Peut-être la plus grosse sortie de chez Marvel de la semaine d'ailleurs.
Encore un gros titre Marvel Now.
Oui, très nettement, ouais.
Qui conclut la première vague Marvel Now. Quand là, enfin, on peut dire c'est fini, quoi.
Ouais. Et puis dans 2 mois, on recommence. Avec de nouveaux
titres. Ça aura mis, ils avaient dit que ça serait sur 4 mois. Au final, ça aura mis 8 mois, quoi.
Ouais. Ouais, mais c'est chez Marvel, quoi. C'est normal.
Ouais, voilà.
Allez, on continue avec Marvel et on passe à une autre série d'Obédience X, puisque c'est Wolverine and the X-Men, numéro 30. C'est Flo qui nous entend.
Bien joué, Obédience.
Ouais, après un numéro un petit peu interlude, on passe au numéro 30, qui est sous-titré The Hellfire Saga Prologue. Donc, on s'attend à du lourd, ou juste à un prologue qui sert à rien, vous verrez bien. C'est écrit par Jason Aaron, c'est dessiné par Pasquale Ferri, avec Pepe Larraz et Salva Espin. Donc autant vous dire que c'est vraiment très très joli. C'est très très beau. C'est colorisé par James Campbell. On y retrouve Wolverine et Rachel Summers qui sont un petit peu énervés et qui attaquent le QG du Hellfire Club. Et évidemment, ils sont pas là, mais ils font ça juste pour énerver Wolverine. Qui est un peu vénère qu'ils aient touché à Brou, etc. Enfin, tout ce qui s'est passé avant avec le Hellfire Club. Pendant ce temps, Beast vient voir sa copine, vous savez, la fille toute verte qui est la patronne du Sword. Elle va voir sa copine du Sword avec Brou pour lui demander de l'aide. Et surtout demander de l'aide à quelqu'un qu'on a vu au début du run de Jason Aaron, qui est le docteur Xanto Starblood, qui est le zoologiste de l'extrême, l'auteur très célèbre de nombreux bouquins, qui a l'habitude de détruire, d'éteindre complètement les espèces sur lesquelles il écrit des bouquins. Voilà. Et évidemment, Starblood ça va mal tourner, quoi. Beast, il est un petit peu con, quoi. Ça va mal tourner, il va se barrer, il va s'échapper, voilà. Je vous raconte pas la suite. Mais ça, en gros, ça annonce effectivement du lourd avec le Hellfire Club. On a un petit peu des indices aussi pourquoi la Black, là, je sais pas comment on prononce, a rejoint dans le précédent numéro le Hellfire Club. Voilà, Quentin Quire va un petit peu enquêter sur le Hellfire Club et ça annonce une grosse menace et du lourd pour la suite. Donc ça reprend un petit peu du poil de la bête cette série depuis le numéro précédent, ça reprend du poil de la bête et c'est tant mieux. Donc pour moi, ça sera un bon bail. Voilà, c'est bien écrit par Jason Aaron qui a l'air de s'amuser un petit peu à nouveau dessus.
D'accord. Voilà. On passe à la suite, c'est le Indestructible Hulk numéro 8, scénarisé bien sûr par Mark Waid, avec des dessins pour cette dernière partie d'arc de Walter Simonson, ancré par Bob Wiasek. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de lire un arc dessiné par Walter Simonson. Après, tout le monde n'aimera pas forcément ce style, mais enfin voilà, moi c'est un auteur que j'aime beaucoup, et je suis très content de l'avoir vu redessiner Hulk et redessiner Thor. Puisque voilà, c'était pour moi juste magnifique. On a donc cette fin d'histoire où Bruce Banner est parti sur Jotunheim, le monde des glaces de l'univers Asgard. Sauf que créer ce portail ne les a pas amenés juste sur Jotunheim, les a ramenés aussi dans le passé. Et ils donc rencontrent un Thor qu'ils ne connaissaient pas encore, du moins. Attaqués par des Frost Giants, ils ont dû devoir fermer le portail qui devait les ramener et ils étaient coincés. On apprend qu'ils sont restés 23 jours avant que la situation se débloque. Bon, voilà, 23 jours à se les peler. C'est pas cool. Alors franchement, une histoire qui finit en apothéose, ça castagne de partout. Hulk se bat contre des Frost Giants. On a un tandem Hulk-Thor qui mettent des coups sur le sol et qui explosent tout. Enfin, c'est vraiment génial. C'est bourré d'action, c'est jouissif au possible. Ah, c'est pas une histoire où on va beaucoup réfléchir, quoique, on a quand même un petit discours sur la maladie, puisque Bruce Banner avait découvert qu'un de ses membres cherchait à se suicider. Mais on comprend pourquoi, cette fois-ci, dans cet épisode-là, puisqu'elle est atteinte d'une maladie, je vous laisse découvrir laquelle. Mais franchement, très bon épisode. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce Hulk par Mark Waid, qui est en apparence peut-être un peu léger, mais c'est juste en apparence. Donc, pour moi, un bail, ça continue. Après, pour les autres, je conseillerais peut-être d'attendre la suite, puisque le prochain épisode sera une rencontre entre les deux personnages de Mark Waid, c'est-à-dire Hulk et Daredevil.
Si je peux juste dire un petit mot, je n'ai pas noté dans le conducteur parce que je n'ai pas fini ce numéro, mais je suis cette série. Moi, les dessins de Simonson m'ont vraiment refroidi sur cet arc. Je ne suis pas rentré dans l'arc, mais juste à cause des dessins, en fait. Alors
ben,
que l'arc précédent, il n'y avait pas tellement d'histoire, même s'il se finissait bien, et c'était plutôt pas mal. Voilà, les dessins de Danny Liu, voilà, je rentrais dedans totalement. Là, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, vraiment. Je suis resté keblo sur ces trois numéros, je suis pas rentré, quoi.
Avais-tu déjà lu du Simonson auparavant, peut-être?
Non, j'ai pas lu les Thor de Simonson ni rien, j'avais jamais lu de Simonson. Je sais pas si c'est le même style qu'il avait dans les fin des années 70, années 80.
C'est un style qu'il a changé, qu'il a modifié. Ça reste le style. Il y a toujours le principe de base, mais c'est un style à évoluer quand même. Et enfin, moi, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il y a aussi peut-être ce côté un petit peu nostalgique et d'un auteur que j'aime bien, quoi. Un peu comme avec John Byrne, finalement.
Ah oui, oui, non, oui, c'est certainement. Oui. Enfin, moi, j'ai hâte de voir le prochain numéro, justement. Rencontre entre Daredevil et Hulk, voilà. Donc un poil, moi j'étais un poil déçu sur cet art.
D'accord.
Mais c'est vraiment juste sur le dessin, quoi. C'est pas conseillé à tout le monde. Je sais pas si tout le monde va, si des lecteurs récents vont vraiment trop accrocher, quoi. C'est vraiment particulier.
On va terminer notre partie Marvel avec la sortie du Avenging Spider-Man 22. Bruno nous en parle comme à chaque fois puisque c'est peut-être le seul
le
fan de cette série. J'ai écrit
Pardon.
22, c'est moi.
C'est bon. Donc alors, Avenging Spider-Man, c'est vachement bien. C'est Christopher Yost au scénario. On a un super, super Marco Cecchetto au dessin. C'est sublime ce qu'il fait. J'adore ce dessinateur. Il faudrait lui donner plus de boulot parce qu'il est excellent. C'est la suite de cette histoire avec le caméléon qui essayait de s'enfuir de l'hélicarrière du Shield. C'était le gros bordel. Je vous avais déjà expliqué le mois dernier avec des tueurs russes qui voulaient éliminer le caméléon. En même temps, Superior Spider-Man qui voulait capturer le caméléon. On avait Hulk là-dedans qui était très énervé et qui faisait des Hulk smash partout. On avait Nick Fury, on avait Coulson. C'est la grosse baston, on a l'impression d'être dans le film Avengers, il y a plein de clins d'œil à Avengers, c'est très très drôle. C'est super. Et franchement, voilà, j'adore ce titre, je l'ai lu avec vraiment beaucoup beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que c'est beau. Et à la fin, enfin, je vais pas dire la fin, mais ça fait plusieurs numéros que Superior Spider-Man essaye de capturer un peu tous ses anciens ennemis. C'est vachement cool. Maintenant, il va falloir que Marvel m'explique pourquoi ils ont voulu changer le nom de ce titre et qu'à partir dans deux numéros, ça va s'appeler Superior Spider-Man Team Up, alors qu'on va garder la même équipe. Je sais pas pourquoi ils changent de nom, parce que c'était génial. Et j'espère qu'il va continuer
supérieur.
L'histoire qu'il avait commencé. Mais...
Oui,
pour que ça s'appelle Superior en dedans.
Et puis, vu que Spider-Man ne fait plus partie des Vengeurs, Avenging, ça servait à rien.
Parce qu'avant, ils avaient Team Up avec des Vengeurs.
Mais j'espère que Christopher Yost va continuer son histoire... qu'il avait entamé dans Avenging, parce que c'est vraiment super bien, et il a placé plein de choses dans les différents numéros qu'il a écrits, et c'est super, enfin c'est cool quoi, c'est un super supérieur Spider-Man. Moi j'aime beaucoup, et il y a des couvertures de Paulo Rivera à chaque fois qui sont sublimes, donc pour moi c'est un bon gros bail, et mon petit plaisir tous les mois de retrouver le Peter Parker New Generation.
C'est peut-être le seul à lire cette série.
Bah ben voilà, mais c'est pas grave.
Mais tu as raison d'en parler, tu as raison, parce que voilà, je pense que.
Et en tout cas, feuilletez-le et vous verrez. Ce que fait Checheto, c'est sublime. Enfin, ouais, son Hulk est excellent.
J'ai pas fini de le lire, mais c'est vrai que Marco Checheto, c'est très très beau. Waouh.
Voilà, tu es sûrement. Bah, peut-être que. Flo en lit peut-être, mais voilà, tu es sûrement des seuls dans l'équipe à le lire, mais bon, voilà, tu n'es pas le seul au monde à le lire, sinon cette série aurait été annulée déjà depuis longtemps.
Voilà.
Donc voilà, pour les auditeurs, en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir un avis sur une série, peut-être qu'ils suivent. Ou voilà. Justement, ou un avis pour une série qu'ils ne veulent pas acheter. Enfin voilà, tout dépend. Là, finalement, ça donne plutôt envie, ce que tu en dis. On va maintenant terminer notre émission avec la partie TPB comme chaque semaine. On va faire le tour des grosses sorties et puisque c'était la cinquième semaine du mois, il n'y avait pas beaucoup de sorties comics comparées à d'autres semaines. En revanche, ils ont cartonné tous sur les TPB, sans jeu de mots. TPB cartonné.
Oh, bien joué.
Je suis désolé, franchement j'ai honte. Et on commence avec du Dark Horse qui nous sort un omnibus Star Wars qui s'appelle Wild Space Volume 1, qui va reprendre des collections d'épisodes rares, notamment des épisodes d'Alan Moore qui étaient sortis en Angleterre. On a aussi beaucoup de petits épisodes qui sont très difficiles à trouver et qui seront rassemblés justement en un seul omnibus pour ceux qui ont vraiment envie de les retrouver ou qui ne les auraient pas découverts. Ça vaut...
Elle est super cette collection d'omnibus Dark Horse. Ils sont un plus petit format, ils sont très mouse, pas très chers et c'est vraiment super pour les fans de Star Wars.
Et justement, oui, comme tu dis, ils ne sont pas très chers puisque ça vaut $24.99. Alors vous retrouverez entre autres un niveau scénariste du Mike Barr, du Chris Claremont, du Archie Goodwin, du Alan Moore bien sûr. Et puis côté dessin, vous retrouverez il y en a d'autres, hein, j'en ai cité que quelques-uns, mais niveau dessin, vous retrouverez aussi du Dave Cockrum, du Alan Davis, du Gene Day, du Carmine Infantino, du Gary Erskine, etc. etc. Vraiment
J'avais pas idée qu'il y ait tout ce monde-là qui avait écrit et dessiné du Star Wars. Ça me donne envie parce que c'est.
Ah oui,
je suis vraiment étonné, quoi.
Voilà, c'est vraiment des épisodes très rares, épisodes promotionnels, des choses qu'on pouvait pas forcément trouver très facilement le commerce et qui aujourd'hui sont très 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 difficiles à trouver. Donc c'est l'occasion justement de se jeter dessus pour pouvoir les redécouvrir ou les découvrir tout simplement. On continue avec maintenant du DC qui nous ressort un gros omnibus. C'est l'Absolute Top 10. C'est du hardcover, bien sûr. Grosse série d'Alan Moore et Jean A. Je crois que rien que déjà les deux noms devraient suffire à faire trembler tous les lecteurs de comics d'impatience. Ça vaut $100. C'est vraiment la collection complète. Vous avez donc la maxi-série Top 10 1 à 12, vous avez aussi S-Max 1 à 5, ainsi que le America's Best Comic Special numéro 1 et le graphic novel Top 10 The 49ers. La complète de Top 10, quoi.
Ouais, c'est du lourd, ça. C'est du très lourd. Manier.
Alors certes, ça vaut $100, mais là, vous avez vraiment tout. Hein. Et c'est présenté dans une édition avec un boîtier amovible, surtout.
Ouais, ouais. Bah c'est plus qu'un omnibus, c'est le Absolute. Donc c'est plus cher quand même niveau pagination. Le rapport prix page est plus cher qu'un omnibus DC, mais
c'est plus grand.
Mais c'est très joli.
On continue chez DC avec du gros produit puisque c'est la sortie du Batman noir Eduardo Risso qui donc reprend tous les épisodes d'Eduardo Risso accompagné de Brian Azzarello au scénario. On va retrouver Batman 620 à 625, l'arc qu'il avait fait avec Brian Azzarello, les pages de Batman de Wednesday Comics. Donc on avait pu voir cette édition très strip. Le Batman Flashpoint, donc le Batman Night of Vengeance 1 à 3, ainsi qu'une petite histoire de Batman Gotham Knights numéro 8. Ça vaut $25.
Oui. À noter que tout est en noir et blanc, bien sûr, même si les épisodes originaux étaient en couleur.
Ce qui fait ressortir énormément le trait d'Eduardo Risso.
Ah, exactement.
Voilà, donc si vous n'avez pas ces épisodes, ou si vous voulez les découvrir justement en noir et blanc, c'est l'occasion de se jeter dessus. C'est pas très très cher, hein, $25, franchement, pour ce qu'il y a dedans, ça vaut plutôt le coup. On continue avec une autre sortie Vertigo, c'est Lucifer, volume 1 en TPB, qui ressort. Et cette fois-ci, ça va contenir la mini-série Sandman Prisons Lucifer, ainsi que les 13 premiers épisodes de Lucifer. On aura aussi du matériel qu'il y avait dans les premiers TPB, le matériel supplémentaire, donc des sketchs, des interviews, ce genre de choses. Ça vaut $30, c'est un très bon moyen de découvrir cette immense série de Mike Carey dessinée par Scott Hampton.
Ouais, donc spin-off à Sandman, évidemment. Et donc oui, ça, on suit. Enfin, Vertigo a l'habitude du coup là de ressortir des gros TP, donc du gros souple mais à pas cher, qui rassemble généralement deux TP. Ils ont fait ça pour Preacher, ça va sortir peut-être pour Preacher aussi. C'est, ça rassemble deux TP en un seul, et donc du coup super rapport qualité-prix.
Bah oui, 30 dollars là.
C'est vraiment, c'est vraiment top quoi. Vu de la pagination, c'est vraiment énorme.
Bah vous avez deux TP, puis vous avez aussi cette mini-série Sandman Prisons Lucifer, qui je ne suis pas sûr qu'elle était dans les premiers TP en plus.
C'est bien possible. Mais ouais, gros, ça c'est ne loupez pas ça.
On continue toujours avec un omnibus, c'est le troisième omnibus des New Teen Titans, époque Marv Wolfman et George Perez. Ça vaut 75$ puisque c'est un omnibus, hein, c'est très gros. Vous avez dedans les Tales of the Teen Titans 45 à 61, ainsi que 66 à 67, New Teen Titans 38, New Teen Titans 1 à 6, et enfin le Secret Origins Annual numéro 3. Grande époque pour les Teen Titans que cette collaboration entre Marv Wolfman et George Perez.
Le meilleur costume de Nightwing.
Oui, ouais, le costume très cirque avec le grand décolleté.
Ah oui, le costume queer.
Ouais. Bah, on dirait qu'il faisait partie du membre Kiss.
C'est queer, quoi.
Ouais, mais bon, voilà, c'était quand même peut-être la meilleure période des Teen Titans. On continue avec une sortie qui va faire plaisir à Bruno chez DC. Le coup de cœur TPB de Bruno chez DC. Phantom Stranger numéro 1, qui reprend les épisodes 0 à 5. Ça vaut 15$.
Ouais, je vais prendre 10 minutes d'ailleurs pour vous dire à quel point c'est bien. Non, c'est vraiment pas mal. Après, les dessins sont pas très très bons, j'avoue.
C'est Brent Anderson, je crois.
C'est Brent Anderson n'est pas son meilleur niveau. Ça s'arrange vachement par la suite. Il y a d'autres dessinateurs qui arrivent dessus. Il y a du Gina, il y a Jelly qui fait les couvertures. Après, c'est sublime. C'est surtout que l'histoire est assez mature et il va y avoir un petit peu des prémices de Trinity War. D'ailleurs, le titre s'appelle Trinity of Sin Phantom Stranger. Donc, voilà. Si vous voulez être à fond sur Trinity War, je pense qu'il faut que vous lisiez Phantom Stranger.
Oh, le mec, il va la vendre comme il peut, sa série, quoi. À croire qu'il touche des actions chez DC à chaque fois qu'il en parle.
Non, mais il va réussir.
Il y a un chien qui parle dedans.
Je te jure, je vais l'acheter.
Il y a un chien qui parle.
Ouais, alors, ce sont les épisodes écrits par Dan DiDio lui-même. Puis par la suite sera aidé par JM DeMatteis, qui reprendra la série à partir du numéro 6, hein, je crois. Si tu peux confirmer,
c'est
Bruno.
C'est ça, oui, c'est ça. D'abord en duo et après en solo.
On termine la partie d'essai avec le deuxième TP de Superboy, série qui ne sort toujours pas en français, qui contient le numéro 0, le numéro 8 à 12 et le Teen Titans 6, puisqu'il y avait eu un petit crossover entre les deux, enfin une petite rencontre entre Superboy et Teen Titans.
Est-ce que c'est vraiment grave si ça n'est pas sorti en français? Est-ce que tout le monde s'en fout?
Ben, franchement...
C'est pas mal.
Entre Superboy et Supergirl, je préfère Superboy. Voilà.
C'est pas mal, Superboy. Il y a des choses intéressantes. Et les dessins sont plutôt bien réussis à chaque fois. Voilà.
Au niveau des dessins, on a Herbé Silva et Ian Churchill.
C'est pas indispensable, mais c'est pas mal. Franchement, c'est une lecture agréable.
On va maintenant passer à Image, qui sort cette semaine le premier TP de Clone, une série de David Schulner dessinée par Juan Roserip, une histoire comme son nom l'indique, hein, sur des clones. Très bonne série que moi j'aime beaucoup et je vous encourage vraiment à vous le procurer. Le TP est pas très cher, il vaut que 13$.
Image a la bonne habitude de sortir ses premiers TP vraiment à pas cher, entre 10 et 13$.
J'ai vu que le premier numéro, je crois, mais Rip était vraiment très très en forme dessus.
Et il continue, hein, je veux dire, voilà, la qualité visuellement ne baisse pas de numéro en numéro. Et puis bon, on pourra pas lui reprocher de faire toujours les mêmes visages puisque ce sont des clones.
Non, ça c'est facile ça.
La série a été créée
c'est Sean Murphy qui aurait dû dessiner ça.
Ah, arrête! Je touche pas à mon Sean.
Mais je l'adore, Sean. J'adore.
Très vite, la ressortie de Elephant Man Revised and Expanded, premier hardcover qui comprend les numéros 0 à 7. Je le signale pour ceux qui n'auraient pas trouvé celui de chez Delcourt. Je vous rappelle que la série est sortie en français chez Delcourt. Bah, soutenez-la si vous voulez avoir la suite. Ça vaut $40. C'est une édition avec donc le fameux numéro 0 qui n'y était pas et qui depuis est très difficile à trouver. Et puis voilà, on a une introduction de Jonathan Ross en plus et d'autres petits bonus. On passe maintenant chez Marvel avec les Premier Edition qui sortent cette semaine, notamment le All New X-Men en hardcover à $25 qui contient les 6 à 10. Ouais. Ça fait mal au cul.
Ouais, il y a, on en avait parlé dans le Weekly News, mais il y a le code pour télécharger les versions digitales avec.
Ouais, donc l'achetez pas en digital.
Bah, ou achetez-le à deux.
L'achetez pas en digital.
Achetez-le à deux, ça vous divisera le prix par deux. Il y en a un qui garde le bouquin, l'autre qui prend la version digitale. Ça peut toujours être un moyen pour faire réduire le prix.
Non, mais c'est vraiment
trop cher. Ce nouveau format un petit peu bizarre, type franco-belge, enfin, c'est vraiment bizarre. Dos carré, étrange.
Ouais, bon, de toute façon, c'est une série qui va débarquer bientôt en français. On la mentionne parce que peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Dans la même édition, on a aussi le Thor God of Thunder, premier TP, enfin, premier hardcover qui sort avec les numéros 1 à 5. Très bonne série de Jason Aaron dessinée par Esad Ribic. Au top de sa forme.
Un écran de luxe pour cette bonne série.
Bah, c'est quasiment c'est une des meilleures du Marvel Now. Parmi toutes les très bonnes séries du Marvel Now, celle-ci est sans doute dans le top. Un mélange d'épique, d'une écriture très fine à Jason Aaron, assez sérieuse parfois, mais aussi avec un côté un peu médiéval, un peu bourru du jeune.
C'est les crayons de Jason Aaron, il a des mines très très fines, c'est normal.
Tout à fait. Non, mais ça alterne entre une écriture qui peut avoir l'air sérieuse parce que l'histoire est très sérieuse, mais son écriture fait que ça passe tout seul et que c'est vraiment épique. Il y a un souffle vraiment épique dans cette série. C'est excellent, c'est formidable.
Et puis ce gimmick des trois Thors, hein, le Thor du passé, du présent et du futur, qui est vraiment super bien maintenu jusqu'au.
Très bien trouvé et c'est très bien mené et ça continue encore maintenant. Et c'est vraiment très très. Très ambitieux, et pour qu'un auteur arrive à mener ce truc-là sans que ça soit trop bancal, je dis chapeau.
Donc 25$ aussi hein, pour ce TP, donc c'est la première édition, si vous voulez le voir à moins cher, il va falloir attendre encore quelques semaines pour qu'il sorte en version souple à moins cher. On continue chez Marvel puisqu'on a aussi cette fois-ci en TP souple le premier numéro de Deadpool qui reprend les numéros 1 à 6 de cette série de Gary Ligan et Brian Posen dessiné par Tony Moore et Jeff Darrow. $16.
Ouais, sympa comme tout. C'est les Dead Presidents of the United States qui reviennent en zombie et c'est très très rigolo, sympathique.
On a la ressortie, alors peut-être pour surfer sur la vague, de The Private Eye, qui marche vraiment beaucoup, beaucoup auprès du public, de Doctor Strange The Oath en TPB, mini-série donc écrite par Brian Kevogan et Marcos Martin. Ça vaut $20.
C'était un titre que je veux découvrir, donc je suis content que ça ressorte parce que c'était plus dispo.
Bunny nous a dit énormément de bien dessus. Pourtant, il est souvent critique sur Brian Kevogan et il déteste par ailleurs Saga. Et il nous avait dit dans un précédent Weekly News, je crois, que c'était le meilleur truc sur Doctor Strange qu'il avait lu. Donc, ça m'a donné très envie de lire ça.
On continue avec la sortie de Punisher Enter Warzone, qui était donc la mini-série de conclusion du run de Greg Rucka sur Le Punisher. Tu parlais de Marco Cecchetto tout à l'heure en vantant ses crayons. Eh bien, vous le retrouverez aussi sur cette mini-série. Ça vaut $17. Et voilà, si vous l'avez raté, je pense que ça devrait arriver en français très prochainement. Donc voilà, à voir si vous voulez le lire tout de suite ou si vous voulez attendre quelques mois encore. On continue avec Superior Spider-Man, numéro 1 à 5, qui sort en TP souple cette fois-ci au prix de $18. Ça valait peut-être le coup d'attendre plutôt qu'acheter la première édition à 25.
C'est toujours très cher quand même chez Marvel.
Dan Slott, Ryan Stegman, bon, Superior Spider-Man. Voilà. Rien de plus à dire. Et on termine sur du Brian Wood hein, qui avait égayé notre partie Marvel avec son X-Men. Vous pouvez lire ses Ultimate Comics X-Men par Brian Wood. Le premier TP est donc sorti $20. Ça reprend Ultimate Comics X-Men 18.1 et 19 à 22. Peut-être un petit peu cher, je trouve. Enfin.
Ouais, favoriser peut-être les sorties françaises. Hein. Le Ultimate Universe c'est vraiment pas cher, donc on arrive bientôt en plus à ces numéros-là. Donc.
Bon voilà, en tout cas pour ceux qui ne veulent pas la version française, qui ne sont intéressés que par cette série, peut-être que par Brian Wood et qui ont envie de découvrir ses travaux, sur Ultimate Comics.
C'est la série préférée de Sam, donc allez-y. Non, je troll. Il aime pas.
Non, par contre, il avait adoré Punisher Enter Warzone. Voilà, c'est tout pour les TP, donc comme je dis, une grosse vague de TP cette semaine pour aussi contrebalancer le fait qu'il y ait moins de sorties. C'est toujours le petit problème que l'on a quand on a 5 semaines de comics dans le mois. En tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine pour le début du mois, il va y avoir encore du très très lourd le mois prochain. Je sais pas comment on va faire encore. Je pense qu'il va falloir qu'on demande des crédits monstrueux à nos banquiers, sous des faux noms, pour qu'on n'ait jamais à les rembourser, peut-être. Je ne sais pas.
Technique de Sioux,
ouais. Ça va être le seul moyen. D'ici la semaine prochaine, comme d'habitude, vous retrouverez le Weekly News le mardi. Bien sûr, vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr qui seront lus dans ce Weekly News, dans notre partie Comics.com, qui permet de répondre à vos questions. Puis bien sûr, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, et retrouver tous les anciens épisodes sur iTunes ou le site. Voilà, comme d'habitude, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
Ouais, et Flo, juste un truc, Flo, j'aimerais bien te voir aller dans l'espace et mourir quand même.
Enfoiré. J'aimerais bien, Steve, qu'on finisse comme dans le Camoulox, par un mot de la fin.
Mais je t'en prie, si tu as un mot de la fin à nous proposer.
Velux.
Poil à gratter.
J'ai pas d'idée.
Camoulox!